Césarine Dietrich, septième partie. Ce jour-là, Césarine avait frappé juste. Elle s'était purgée du ridicule attaché à l'amour non partagé. Elle s'était relevée de cette humiliation qui donnait trop de force à la révolte de son antagoniste. Elle avait diminué sa confiance en moi. Gilbert avait maintenant des doutes sur la lucidité de mon jugement. Il m'en voulait peut-être un peu d'avoir essayé de le mettre en garde contre un péril imaginaire. Il se méfiait de ma sollicitude maternelle et croyait y reconnaître une certaine exagération qui n'était pas sans danger pour lui. Aussi défendit-il à Marguerite de me parler de la visite de Césarine afin de ne pas m'alarmer de nouveau. Monsieur de Rivonnières semblait entrer en convalescence quand un grave accident se produisit et mit encore sa vie en danger. C'est alors que Césarine conçut un projet tout à fait inattendu dont elle me fit part quand la chose fut à peu près résolue. « Tu sauras, me dit-elle, qu'avant 2 semaines, je serai probablement marquise de Rivonnières. Allons, on n'est pas d'attaque de nerfs, ce n'est pas si surprenant que cela. C'est très logique, au contraire. » « Apprends ce qui s'est passé il y a 3 jours. » Monsieur de Valbonne, qui est le meilleur ami du marquis, est venu me voir de sa part et il m'a dit ceci. « Il n'y a plus d'illusion à entretenir. Une consultation des premiers chirurgiens et des premiers médecins de France a décrété ce matin que le mal était incurable. Jacques peut vivre 3 mois au plus. On a caché l'arrêt à sa famille. » On ne l'a communiqué qu'à moi et à Dubois, en nous conseillant, si le malade avait des affaires à régler, de l'y décider avec précaution. Les précautions étaient inutiles. Jacques s'est senti frappé à mort dès le premier jour, et il a dès lors envisagé sa fin prochaine avec un courage stoïque. Au premier mot que j'ai hasardé, il m'a pris la main et me l'a serré d'une manière qui signifiait « Oui, je suis prêt. » Car il faut dire que sur des signes fort légers et un simple mouvement de ses lèvres ou de ses paupières, je suis arrivé à deviner toutes ses volontés et même à lire clairement dans sa pensée. Je lui ai demandé s'il avait des intentions particulières. Il a dit oui avec les doigts, appuyant sur les miens, et il a prononcé sans émission de voix « Eri, César. » Vous voulez, lui ai-je dit, instituer pour votre héritière Césarine Dietrich ? Signe affirmatif très accusé. Elle n'a pas besoin de votre fortune, elle n'acceptera pas. Si, mariage in extremis. Je lui ai fait préciser sa résolution en la traduisant ainsi. Vous pensez qu'elle acceptera votre nom et votre titre à votre heure dernière ? Oui. Nulle science humaine ne peut affirmer que l'heure réputée la dernière pour un malade ne soit pas la première de son rétablissement. Mademoiselle Dietrich n'a pas voulu être votre compagne dans la vie. Risquera-t-elle de s'engager à vous dans le cas éventuel d'une mort toujours incertaine? Je parlais ainsi pour lui donner une espérance dont il ne voulait pas et que je n'ai pas. Il m'a montré des yeux mon chapeau et la porte. « Vous voulez que j'aille le lui demander tout de suite ?» Il a fait de la main un oui impatient et me voici. Mais pour fixer votre esprit dans cette situation difficile, je vous ai apporté la consultation signée des autorités de la science. Vous voyez que le malheureux est condamné et qu'en acceptant l'offre suprême du pauvre Jacques, vous ne risquez pas de devenir sa femme autrement que devant la loi. J'ai demandé à Monsieur de Valbonne pourquoi Jacques avait ce désir étrange de me donner son nom. « Quant à sa fortune, ajoutai-je, je n'en voulais pas frustrer sa famille, étant bien assez riche par moi-même, et le titre de madame et de marquise n'avait aucun lustre à mes yeux de fille émancipée, de bourgeoise satisfaite de ses origines. Vous avez tort de dédaigner les avantages que le monde prise au premier chef, » a repris l'ami de Jacques. Vous aimez l'indépendance, l'éclat et le pouvoir. Votre importance actuelle, qui est considérable, sera décuplé par la position qui vous est offerte. Ce n'est pas de cela qu'il faut me parler, c'est du bien que je peux faire à notre pauvre ami. Vous connaissez toutes ses pensées. Il prétendait devant moi n'être pas sensible au ridicule de sa position d'aspirant perpétuel. Il me trompait peut-être. Il y était cruellement sensible. La vivacité de sa souffrance vous montre la persistance de sa passion. J'ai la certitude que sa mort serait adoucie par la réparation qu'il est en votre pouvoir de lui donner devant le monde. En ce cas, j'accepte. Cela est beau et grand de votre part. Irai-je trouver monsieur votre père ? Allons-y ensemble, je suis sûre de son consentement. Nous avons parlé à mon père. Il a cédé pour d'autres motifs que les miens. Il croit que ma réputation a souffert des assiduités trop évidentes du marquis et que ma complaisance à les supporter de préférence à celle de beaucoup d'autres a fait dire de moi que je voulais garder mon indépendance au prix de ma vertu. Ceci n'a rien de sérieux pour moi. Il n'est personne que la calomnie des bas-fonds ne veuille atteindre. Quand on est pur, on danse sur ces volcans de boue. Mais mon père s'en tourmente. Raison de plus pour que je cède. Voilà, ma Pauline, puisque c'est une bonne action à faire, il ne faut pas hésiter, n'est-ce pas ton avis ? Ce n'était pas beaucoup mon avis. Je trouvais dans cette bonne action quelque chose de féroce. La nécessité pour Césarine de trembler au moindre mieux qui se manifesterait dans l'état de son mari. Si, contre toutes les prévisions, il guérissait, ne le haïrait-elle pas ? Et si, sans guérir, il languissait durant des années, ne regretterait-elle pas la tâche ingrate qui lui serait imposée ? Elle s'offensa de mes doutes et me répondit avec hauteur que je ne l'avais jamais connue, jamais estimée. « Ceci, me dit-elle, est la suite de certaines rêveries que j'ai eu le tort d'entretenir en toi pour le plaisir de discuter et de taquiner. Tu as fini par te persuader que je voulais épouser monsieur ton neveu, et à présent tu crois que si j'en épouse un autre, mon cœur sera déchiré de regret. Ma bonne Pauline, ce roman a pu t'exalter. Tu aimes les romans. Mais celui-ci a trop duré. Il m'ennuie. S'il te faut des faits pour te rassurer, je te permets d'admettre que j'ai toujours aimé monsieur de Rivonnières et que j'ai eu le droit de le faire attendre. » Du moment qu'elle croyait annuler par une négation tranquillement audacieuse tout ce qu'elle avait dit à son père et à moi, je n'avais rien à répliquer. Les bans furent publiés. J'en informai Paul, qui ne montra aucune surprise. Il voyait souvent M. de Valbonne, qui s'était pris d'amitié pour lui et lui témoignait une entière confiance. Il était donc au courant et il approuvait Césarine. Il me raconta alors l'explication qu'elle était venue lui donner et me fit comprendre qu'il y avait eu un peu de ma faute dans le rôle ridicule qu'il avait failli jouer auprès d'elle. J'en fus mortifiée au point de m'en vouloir à moi-même, de me persuader que Césarine s'était moquée de mes terreurs, qu'elle n'avait eu pour Paul qu'une velléité de coquetterie en passant, et qu'au fond, elle avait toujours aimé plus que tout le marquisat de monsieur de Rivonnières. Ainsi, c'était pour elle victoire sur toute la ligne. Personne ne se méfiait plus d'elle, ni chez elle, ni chez Paul, ni dans le monde. La faiblesse extrême du marquis s'était dissipée durant les délais obligatoires. Le mal avait changé de nature. Le poumon était guéri, on permettait au malade de parler un peu et de passer quelques heures dans un fauteuil. La maladie prenait un caractère mystérieux qui déroutait la science. Le sang se décomposait. La tête était parfaitement saine, malgré une fièvre continue, mais l'hydropisie s'emparait du bas du corps. L'estomac ne fonctionnait presque plus, les nuits étaient sans sommeil. Il montrait beaucoup d'impatience et d'agitation. On ne songeait plus qu'à le deviner, à lui complaire, à satisfaire ses fantaisies. Sa famille avait perdu l'espérance et ne cherchait plus à le gouverner. Le mariage déclaré, la sœur et le beau-frère, qui avaient compté sur l'héritage pour leurs enfants, furent très mortifiés et dirent entre eux beaucoup de mal de Césarine. Elle s'en aperçut et les rassura en faisant stipuler au contrat de mariage qu'elle n'acceptait du marquis que son nom. Elle ne voulait être usufruitière que de son hôtel, dans le cas où il lui plairait de l'occuper après sa mort. Dès lors, la famille appartint corps et âme à Mademoiselle Dietrich. Le monde se remplit en un instant du bruit de son mérite et de sa gloire. La veille de la signature de ce contrat, c'était en juin 1863, il y eut un autre contrat secret entre Césarine et le marquis en présence de M. de Valbonne, de M. Dietrich, de son frère Karl Dietrich, de M. Campbell et de moi. Contrat bizarre, inouï, et qui ne pouvait être garanti que par l'honneur du marquis, son respect de la parole jurée. D'une part, le marquis, avec une générosité rare, exigeait que Césarine ne cessât pas d'habiter avec son père. Il ne voulait pas l'avoir pour témoin de ses souffrances et de son agonie. Il ne lui permettait qu'une courte visite journalière et un regard d'affection à l'heure de sa mort. D'autre part, dans le cas invraisemblable où il guérirait, il renonçait au droit de contraindre sa femme à vivre avec lui et même à la voir chez elle, si elle n'y consentait pas. Les deux clauses furent lues, approuvées et signées. On se sépara aussitôt après. Le marquis mettait sa dernière coquetterie à ne pas être vu longtemps dans l'état de dépérissement et d'infirmité où il se trouvait. Comme il n'était pas transportable, il fut décidé que le mariage aurait lieu à son domicile. Le maire de l'arrondissement, avec qui l'on était en bonne relation, promit de se rendre en personne à l'hôtel Rivonnière. Le pasteur de la paroisse fit la même promesse. Ce fut le seul déplaisir de la sœur et de la tante du marquis. On avait espéré que Césarine abjurerait le protestantisme. Le marquis s'était opposé, avec toute l'énergie dont il était encore capable, à ce qu'on lui en fît seulement la proposition. Il avait déclaré qu'il n'était ni protestant ni catholique et qu'il acceptait le mariage qui répondrait le mieux aux idées religieuses de sa femme. À vrai dire, Césarine en était au même point que lui. Mais le mariage évangélique lui constituait un triomphe sur cette famille qu'elle voulait réduire par sa fermeté et dominer par son désintéressement. On n'invita que les plus intimes amis et les plus proches parents des deux parties à la cérémonie. Le marquis voulut que Paul fût son témoin, avec le vicomte de Valbonne. Nous devions nous réunir à midi à l'hôtel Rivonnière. Césarine arriva un peu avant l'heure. Elle était belle à ravir, dans une toilette aussi riche en réalité que simple en apparence. Elle s'était composée son maintien doux et charmant des grandes occasions. Elle n'avait pour bijou qu'un rang de grosses perles fines. Son fiancé lui avait envoyé la veille un magnifique écrin qu'elle tenait à la main. Quant à lui, il ne paraissait pas encore. Pour ne pas le fatiguer, le médecin avait exigé qu'il ne sortît de sa chambre qu'au dernier moment. Césarine alla droit à Madame de Monterme, sa future belle-sœur, qui entrait en même temps qu'elle. Elle lui présenta l'écrin en lui disant « Prenez ceci pendant que nous sommes entre nous et cachez-le. Ce sont les diamants de votre famille que je vous restitue. Vous savez que je ne veux rien de plus que votre amitié. » Quand Paul entra avec M. de Valbonne, j'observai Césarine, et je surpris cette imperceptible contraction des narines qui, pour moi, trahissait ses émotions contenues. Elle était dans une embrasure de fenêtre, seule avec moi. Paul va nous saluer. « À présent, lui dit-elle en souriant, votre ennemi n'est plus. Vous n'avez pas de raison pour en vouloir à la marquise de Rivonnière. Voulez-vous que nous nous donnions la main ? » et quand Paul eut touché cette main gantée de blanc, elle ajouta « Je vous donne le bon exemple, je me marie, moi. J'épouse celui qui m'aime depuis longtemps. Je sais une personne à qui vous devez encore davantage. » Paul l'interrompit. « Je vois bien, lui dit-il, que vous êtes encore mademoiselle Dietrich, car voilà que vous recommencez à vouloir faire le bonheur des gens malgré eux. Ce serait donc malgré vous? Je ne vous croyais pas si éloigné de prendre une bonne résolution. » C'est encore, c'est toujours mademoiselle Dietrich qui parle. Mais l'heure de la transformation approche. La marquise de Rivonnière ne sera pas curieuse. Alors, si elle reçoit les leçons qu'on lui donne avec autant de douceur que mademoiselle Dietrich, elle sera parfaite. Elle sera parfaite. Personne n'en doute plus. Il la salua et s'éloigna de nous. Ce court dialogue avait été débité d'un air de bienveillance et de bonne humeur. Paul semblait tout réconcilié. Il l'était, lui, ou ne demandait qu'à l'être. Quant à elle, on eût juré qu'elle n'avait rien dans le cœur de plus ou de moins pour lui que pour ses amis de la troisième ou quatrième catégorie. Celle des personnes présentes qui n'avaient pas vu le marquis depuis quelque temps ne le croyait pas si gravement malade. Quelques-unes disaient tout bas qu'il avait exagéré son mal en paroles pour apitoyer mademoiselle Dietrich et la faire consentir à un mariage sans lendemain, qui aurait au moins un surlendemain. On changea d'avis, et l'enjouement qui régnait dans les conversations particulières fit place à une sorte d'effroi quand le marquis parut sur une chaise longue que ses gens roulaient avec précaution. Il eût pu se tenir quelques instants sur ses jambes, mais il lui en coûtait de montrer qu'elles étaient enflées, et il s'était fait défendre de marcher. Bien rasé, bien vêtu et bien cravaté, il cachait la partie inférieure de son corps sous une riche draperie. Sa figure était belle encore, et son buste avait grand air, mais sa pâleur était effrayante. Ses narines amincies et ses yeux creusés changeaient l'expression de sa physionomie, qui avait pris une sorte d'austérité menaçante. Césarine eut un mouvement d'épouvante en me serrant le bras. Elle l'avait vu plus intéressant dans sa tenue de malade. Cette toilette de cérémonie n'allait pas à un homme cloué sur son siège et lui donnait un air de spectre. Monsieur Dietrich conduisit sa fille auprès de lui, il lui baisa la main, mais avec effort pour la porter à ses lèvres. Ses mains, à lui, étaient lourdes et comme à demi paralysées. Le maire prenait place et procédait aux formalités d'usage. Césarine semblait gouverner ses émotions avec un calme olympien, mais quand il fallut prononcer le oui fatal, elle se troubla et fut prise de cette sorte de bégaiement auquel, dans l'émotion, elle était sujette. Le maire, qui avait fait tous les avertissements d'usage avec une sage lenteur, ne voulut point passer outre avant qu'elle ne fût remise. Il n'avait pas entendu le « oui » définitif. Il était forcé de l'entendre. La future semblait indisposée. On pouvait lui donner quelques instants pour se ravoir. « Ce n'est pas nécessaire, » répondit-elle avec fermeté. « Je ne suis pas indisposée, je suis émue. Je réponds « oui », trois fois « oui » s'il le faut. » Que s'était-il passé en elle? Pendant la courte allocution du magistrat, M. de Valbonne, debout derrière le fauteuil où Césarine s'était laissée tomber, lui avait dit rapidement un mot à l'oreille. Et ce mot avait agi sur elle comme la pile voltaïque. Elle s'était relevée avec une sorte de colère, elle s'était liée irrévocablement comme par un coup de désespoir. Et puis, durant le reste de la formalité, elle avait retrouvé son maintien tranquille et son air doucement attendri. Le pasteur procéda aussitôt au mariage religieux, auquel quelques femmes du noble faubourg ne voulurent assister qu'en se tenant au fond de l'appartement et en causant entre elles à demi-voix. Césarine fut blessée de cette résistance puérile et pria le pasteur de réclamer le silence, ce qu'il fit avec onction et mesure. On se tut, et cette fois, on entendit le « oui » de Césarine, bien spontané et bien sonore. Que lui avait donc dit monsieur de Valbonne? Ces trois mots. Paul est marié. Il l'était en effet. Pendant que les nouveaux époux recevaient les compliments de l'assistance, mon neveu s'approcha de moi et me dit « Ma bonne tante, tu as encore à me pardonner. J'ai épousé Marguerite hier soir à la municipalité. Je te dirai pourquoi. » Il ne put s'expliquer davantage. Césarine venait à nous, souriante et presque radieuse. « Encore une poignée de main, » dit-elle à Paul. « La marquise de Rivonnière vous approuve et vous estime. Voulez-vous être son amie? Et permettrez-vous maintenant qu'elle voie votre femme ?»« Avec reconnaissance, » répondit Paul en lui baisant la main. « Eh bien, » me dit-il quand elle se fut tournée vers d'autres interlocuteurs, « tu t'étais trompée, ma tante, et j'étais, moi, fort injuste. C'est une personne excellente et une femme de cœur. » « Parle-moi de ton mariage. »« Non, pas ici. J'irai vous voir ce soir. »« À l'hôtel Dietrich ?»« Pourquoi non ? Serez-vous dans votre appartement ?»« Oui, à 9 heures. » Les invités, avertis d'avance par le médecin, se retiraient. Le marquis semblait si fatigué que M. Dietrich et sa fille lui témoignèrent quelque inquiétude de le quitter. « Non, leur dit-il tout bas. Il faut que vous partiez à la vue de tout le monde. Les convenances le veulent. Je vous rappellerai peut-être dans 1 heure pour mourir. » Et comme Césarine tressaillait d'effroi, « Ne me plaignez pas, lui dit-il de manière à n'être entendu que d'elle. Je vais mourir heureux et fier, mais bien convaincu que ce qui pourrait m'arriver de pire serait de vivre. » Voici une parole plus cruelle que la mort, reprit Césarine. Vous me soupçonnez toujours ? Et, lui parlant plus bas encore, vous serez libre demain, Césarine. Ne mentez pas aujourd'hui. C'est ainsi qu'ils se quittèrent, et le soir venu, il ne mourut pas. Il dormit, et Dubois vint nous dire de ne pas nous déranger encore, parce qu'il n'était pas plus mal que le matin. Seulement, ajouta Dubois, il a voulu faire plaisir à sa sœur. Il a reçu les sacrements de l'Église. « Que me dites-vous là ? » s'écria Césarine. « Vous vous trompez, Dubois. » « Non, madame la marquise, mon maître est philosophe, il ne croit à rien. Mais il y a des devoirs de position. Il n'aurait pas voulu qu'à cause de son mariage on le crût protestant. Il a fait promettre à monsieur de Valbonne de mettre dans les journaux qu'il avait satisfait aux convenances religieuses. C'est bien, Dubois, vous lui direz qu'il a bien fait. Quel homme décousu et sans règles ! Me dit-elle dès que Dubois fut sorti. Cette capucinerie à thé me remplirait de mépris pour lui, s'il n'avait droit en ce moment à l'absolution de ses amis encore plus qu'à celle du prêtre. Il ne sait plus ce qu'il fait. Mon Dieu, tu le hais, ma pauvre enfant. Il fera bien de mourir vite. Et pourquoi ? Il peut vivre maintenant tant qu'il lui plaira. Je ne suis plus capable de haine ni d'amour. Tout m'est indifférent. Ne crois pas que je regrette le lien que j'ai contracté. Tu sais très bien qu'il n'engage ni mon cœur ni ma personne. Si, contre toute prévision, le marquis revenait à la santé, je ne lui appartiendrais pas plus que par le passé. Aurait-il assez d'empire sur ses passions pour te tenir parole? La promesse qu'il a signée a plus de valeur que tu ne penses. Elle me serait très favorable pour obtenir une séparation. Tu avais consulté d'avance? Certainement. Nous n'échangeâmes pas un mot sur le compte de Paul. Elle reçut des visites de famille et j'allais passer dans mon appartement le reste de la soirée avec mon neveu qui m'y attendait déjà. « Voici, me dit-il, ce qui s'est passé. ce que je te cache depuis une quinzaine. Il est bon de résumer ici dans quels termes j'étais avec M. de Rivonnière au lendemain du duel. Il m'avait accusé en lui-même, et auprès de ses amis probablement, d'aspirer à la main de Mademoiselle Dietrich. En me voyant défendre mon honneur au nom de ma maîtresse et de mon enfant, il s'était repenti de son injustice, et il m'estimait d'autant plus qu'il ne voyait plus en moi un rival. Pourtant, il lui restait un peu d'inquiétude pour l'avenir, car il a pensé à l'avenir durant les quelques jours où son état s'est amélioré. Il m'a envoyé M. de Valbonne qui m'a dit « Vous m'avez presque tué mon meilleur ami. Vous en avez du chagrin, je le sais. Vous voudriez lui rendre la vie. Vous le pouvez peut-être. La femme qu'il aime passionnément aime un autre que lui. À tort ou à raison, il s'imagine que c'est vous. Si vous étiez marié, elle vous oublierait. Ne comptez-vous pas épouser celle pour qui vous avez si loyalement et si énergiquement pris fait et cause ?» J'ai répondu que cette fantaisie de Mademoiselle Dietrich, pour moi, m'avait toujours paru une mauvaise plaisanterie, répétée de bonne foi peut-être par les personnes que le marquis avait eu le tort de mettre dans sa confidence. « Mais si ces personnes ne s'étaient pas trompées ?» reprit M. de Valbonne. « Je n'aurai qu'un mot à répondre. Je ne suis pas épris de Mademoiselle Dietrich, et je ne suis pas ambitieux. » Cette simple réponse venant de vous nous suffit, reprit le vicomte. À présent, nous permettez-vous de vous exprimer quelques sollicitudes à l'endroit de Marguerite ? À présent que les fautes sont si cruellement expiées, je permets toutes les questions. J'ai toujours eu l'intention d'épouser Marguerite le jour où je l'aurai vengée. Je compte donc l'épouser dès que j'aurai amené Mademoiselle de Vermont, qui est ma tante et ma mère adoptive, à consentir à cette union. Elle y est un peu préparée, mais pas assez encore. Dans quelques jours, probablement, elle me donnera son autorisation. Le marquis croit savoir qu'elle ne cédera pas facilement à cause de la famille de Marguerite. Oui, à cause de sa mère, qui était une infâme créature. Mais cette mère est morte, j'en ai reçu ce matin la nouvelle. Et le principal motif de répugnance n'existe plus pour ma tante ni pour moi. Alors, reprit le vicomte, faites ce que votre conscience vous dictera. Vous voici en présence d'un homme que vous avez mis entre la mort et la vie, que le chagrin et l'inquiétude rongent encore plus que sa blessure, et qui aurait chance de vivre s'il était assuré de deux choses qui ne dépendent que de vous. La réparation donnée et le bonheur assuré à la femme qui lui a laissé un profond remords. La liberté, la raison rendue à l'esprit troublé de la femme qu'il aime toujours, malgré le mal qu'elle lui a fait. Ne répondez pas. Réfléchissez. J'ai réfléchi, en effet. Je me suis dit que je ne devais consulter personne, pas même toi, pour faire mon devoir. J'ai écrit le lendemain à M. de Valbonne que mon premier banc était affiché à la mairie de mon arrondissement. Il est accouru à mon bureau, m'a embrassé et m'a supplié de laisser ignorer le fait à Césarine. Pour cela, il fallait vous en faire un secret, ma bonne tante, car Mademoiselle Dietrich est curieuse et vous prend par surprise. Maintenant, pardonnez-moi, approuvez-moi et dites que vous m'estimez, car ce n'est pas un coup de tête que j'ai fait. C'est un sacrifice au repos et à la dignité des autres, à commencer par mon enfant. Vous savez que je ne me suis pas laissé gouverner par la passion et que je n'ai point de passion pour Marguerite. C'est aussi un sacrifice fait à un homme que j'ai eu raison de tuer, mais que je n'en suis pas moins malheureux d'avoir tué, car il n'en reviendra pas, j'en suis certain, et sa femme sera bientôt veuve. Enfin, c'est aussi un peu un sacrifice à la dignité de Mademoiselle Dietrich. Sa prétendue inclination pour moi, dont j'ai toujours ri, était pourtant un fait acquis dans l'intimité de M. de Rivonnière, grâce à l'imprudence qu'il avait eue de confier sa jalousie à d'autres que M. de Valbonne. Si je n'étais pas mariée, on ne manquerait pas de dire que la belle marquise attend son veuvage pour m'épouser. Le faux se répand vite et le vrai surnage lentement. J'ai été très cruel envers cette pauvre personne, à qui j'aurais dû pardonner un instant de coquetterie, suivi de puérils efforts pour dissiper mes préoccupations. Tout cela est à jamais effacé par notre double mariage. J'ai reconnu que votre élève avait des qualités réelles qui font contrepoids à ses défauts. J'imagine qu'elle a renoncé pour toujours à me faire du bien. Elle en trouvera tant d'autres qui s'y prêteront de bonne grâce. D'ailleurs, je ne suis plus intéressant. Mon patron vient de m'associer à une affaire qui ne valait rien et que j'ai rendue bonne. Mes ressources sont donc en parfait équilibre avec les besoins de ma petite famille. Marguerite est heureuse, la Féron est repentante et pardonnée, petit Pierre a recouvré l'appétit, il a 2 dents de plus. Embrasse-moi, ma reine. Dis que tu es contente de moi, puisque je suis content de moi-même. Je l'embrassai, je l'approuvai, je lui cachai le secret chagrin que me causait son mariage avec une fille si peu faite pour lui, quelque dévouée qu'elle pût être. Je lui cachai également le plaisir que j'éprouvais de le voir délivré du malheur de plaire à Césarine. Il ne voulait plus croire à ce danger dans le passé. Je l'en croyais préservé dans l'avenir. Nous nous trompions tous deux. Dès le lendemain, un mieux très marqué se manifesta chez le marquis, et sa sœur ne manqua pas d'attribuer ce miracle à la vertu du confesseur. Césarine et son père le virent un instant comme il était convenu. Il refusa de les laisser prolonger cette courte entrevue, après quoi il prit à part M. de Valbonne et lui exposa la situation de son esprit. « Je crois sentir que je vivrai, lui dit-il, mais ma guérison sera longue et je ne veux pas être un objet d'effroi et de dégoût pour ma femme. » Je voudrais ne la revoir que quand j'aurai recouvré tout à fait la santé. Pour cela, il faudrait obtenir qu'elle passe à l'été à la campagne. Êtes-vous encore jaloux? Non, c'est fini. Césarine est trop fière pour songer à un homme marié. Et cet homme est trop honnête pour me trahir. Je suis certain qu'elle m'aimerait si je n'étais pas un fantôme dont la vue l'épouvante, quelques soins qu'elle prenne pour me le cacher. Elle voudra ne pas quitter Paris si j'y reste. Elle serait blâmée. Il faut donc que je m'en aille, moi, que je disparaisse pour 1 an au moins. Il faut qu'on me fasse voyager. Dites à mon médecin que je le veux. Il vous objectera que je suis encore trop faible. Répondez-lui que je suis résolue à risquer le tout pour le tout. Le médecin jugea que l'idée de son client était bonne. La vue de sa femme le jetait dans une agitation fatale, et l'absence, le changement d'air et d'idées fixes pouvaient seuls le sauver. Mais le déplacement semblait impossible. Si on l'opérait tout de suite, il ne répondait de rien. Monsieur de Valbonne était énergique et regardait l'irrésolution comme la cause unique de tous les insuccès de la vie. Il insista, le départ fut résolu. On l'annonça bientôt à Césarine, qui offrit d'accompagner son mari. Il refusa, et le pauvre Rivonnière, emballé avec son lit dans un wagon, partit pour Aix-les-Bains au 1er jour de juillet. De là, il devait, en cas de mieux, aller plus loin, voyager jusqu'à la guérison ou à la mort, telle était sa pensée. Monsieur de Valbonne l'accompagnait avec un médecin particulier. Césarine passa encore quelques jours à Paris. Son père était impatient de retourner à Mirval. Elle le fit attendre. Avant de quitter le monde pour 6 mois, il lui importait de dire à chacun quelques mots justes sur sa situation, qui semblait étrange et faisait beaucoup parler. Au fond, elle éprouvait, au milieu de ses secrètes amertumes, un petit plaisir d'enfant à se voir poser en marquise et à montrer à l'aristocratie de naissance qu'elle l'honorait au lieu de la déparer. Elle s'était composé un rôle de veuve résignée et vaillante qu'elle jouait fort bien. Elle n'avait, disait-elle, que très peu d'espoir de conserver son mari. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait faire pour lui sauver la vie. Ce n'était point un caprice de générosité, un moment de compassion. Elle l'avait toujours considéré et traité comme son meilleur ami. Elle s'était toujours dit que, si elle se décidait au mariage, ce serait en faveur de lui seul. Il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'elle eût accepté son nom. Mais elle n'avait accepté que cela. Elle tenait à le faire savoir. Elle répéta ce thème sous toutes les formes à 300 personnes au moins dans l'espace d'une semaine. Et quand elle se trouva suffisamment bien posée, elle me dit « En voilà assez, je n'en puis plus. Toute l'Europe sait maintenant pourquoi je suis marquise de Rivonnières. Il n'y a que moi qui ne le sache plus. » Je la comprenais à demi-mot, mais je feignais de ne plus la comprendre. Je savais bien pourquoi elle avait consenti à ce mariage. Elle ne comptait pas sur celui de Paul. Elle voulait le rassurer, le ramener par la confiance et l'amitié. Elle avait calculé que 6 mois, au plus, suffiraient à lui rendre sa liberté et à lui faire conquérir l'amour. Elle avait tout préparé pour éloigner Paul de Marguerite en feignant de vouloir l'unir à elle. Paul avait haï la femme qui s'offrait. Il s'éprendrait de celle qui se refusait, jusqu'à lui en vanter une autre. Elle avait réussi à détruire sa méfiance, mais non à empêcher son mariage. Et elle n'avait plus d'autre parti à jouer que de paraître charmée du prix auquel elle avait obtenu ce résultat. Mais que ce prix était cruel, et comme elle le maudissait sous son air royalement ferme. J'admirais sa force, car moi seule pus surprendre ses moments de désespoir et ses larmes cachées. Son père ne se douta de rien. Il ne pouvait rien empêcher, rien racheter. Il était désormais inutile de rien lui dire. Le reste de la famille se réjouissait de la haute position acquise par Césarine, et Elmina donnait 20 ordres inutiles par jour pour avoir la joie de dire « Prévenez, madame la marquise !» Ses jeunes cousines Dietrich partageaient un peu cette vanité. L'aînée était mariée, la cadette fiancée. La petite Irma disait « Mes sœurs épousent des bourgeois, elles sont furieuses. Moi, je veux un noble, ou je ne me marierai pas. » Bertrand ne disait absolument rien. Il savait trop son monde. Mais quand Césarine, après avoir annoncé qu'elle avait faim, repoussait son assiette sans y toucher, ou quand, après avoir commandé gaiement une promenade, elle donnait d'un air abattu l'ordre de dételer, il me regardait et ses yeux froids me disaient « Vous auriez dû faire sa volonté. Elle mourra pour avoir fait celle des autres. » Chapitre 4. Nous quittâmes enfin Paris le 15 juillet sans que Césarine eût revu Paul ni Marguerite. Mireval était, par le confort élégant du château, la beauté des eaux et des ombrages, un lieu de délices, à quelques heures de Paris. Monsieur Dietrich faisait de grands frais pour améliorer l'agriculture. Il y dépensait beaucoup plus d'argent qu'il n'en recueillait, et il faisait de bonne volonté ses sacrifices pour l'amour de la science et le progrès des habitants. Il était réellement le bienfaiteur du pays. Et cependant, sans le charme et l'habileté de sa fille, il n'eût point été aimé. Son excessive modestie, son désintéressement absolu de toute ambition personnelle, imprimaient à son langage et à ses manières une dignité froide qui pouvait passer aux yeux prévenus pour la raideur de l'orgueil. On l'avait haï d'abord autant par crainte que par jalousie, et puis sa droiture scrupuleuse l'avait fait respecter. Son dévouement aux intérêts communs le faisait maintenant estimer, mais il manquait d'expansion et n'était point sympathique à la foule. Il ne désirait pas l'être. Ne cherchant aucune récompense, il trouvait la sienne dans le succès de ses efforts pour combattre l'ignorance et le préjugé. c'était vraiment un digne homme, d'un mérite solide et réel. Son manque de popularité en était la meilleure preuve. Césarine s'affectait pourtant de voir qu'on lui préférait des notabilités médiocres ou intéressées. Elle l'avait beaucoup poussé à la députation, dont il ne se souciait pas, disant que certaines luttes valent tous les efforts d'une volonté sérieuse, mais que celles de l'amour-propre sont vaines et mesquines. Cependant, une querelle locale d'un grand intérêt pour le bien-être des agriculteurs du département s'étant présentée à cette époque, il se laissa vaincre par le devoir de combattre le mal. Et, au risque d'échouer, il se laissa porter. Césarine se chargea d'avoir la volonté ardente qui lui manquait en cette circonstance. Elle avait peut-être besoin d'un combat pour se distraire de ses secrets ennuis. Son mariage lui donnait droit à une initiative plus prononcée, et M. Dietrich, qui depuis longtemps n'avait résisté à sa toute-puissance que dans la crainte du candidaton, abandonna dès lors à la marquise de Rivonnières le gouvernement de la maison et des relations, qu'il avait cherché à rendre moins apparent dans les mains de Mademoiselle Césarine. Les nombreux clients qui peuplaient les terres du marquis et qui avaient beaucoup à se louer de l'indulgente gestion de son intendant, avaient eu peur en apprenant le mariage et l'absence indéfinie de leur patron. Ils avaient craint de tomber sous la coupe de M. Dietrich et d'avoir à rendre compte de beaucoup d'abus. Quand ils surent et quand ils virent que Césarine ne prétendait à rien, qu'elle n'allait pas même visiter les fermes et le château de son mari, il y eut un grand élan de reconnaissance et de joie. Dès ce moment, elle put disposer de leur vote, comme de celui de ses propres tenanciers. Mirval avait été jusque-là une solitude. M. Dietrich s'était réservé ce coin de terre pour se recueillir et se reposer des bruits du monde. Césarine, respectant son désir, avait paru apprécier pour elle-même les utiles et salutaires loisirs de cette saison de retraite annuelle. Cette fois, elle déclarait qu'il fallait en faire le sacrifice et ouvrir les portes toutes grandes à la foule des électeurs de tout rang et de toute opinion. M. Dietrich se résigna en soupirant. La jeune marquise organisa donc un système de réception incessante. On ne donnait pas de fête, disait-on, à cause de l'absence et du triste état du marquis. Et puis on en donnait qui semblait improvisé lorsque le courrier apportait de bonnes nouvelles de lui, sauf à dire d'un air triste le lendemain que le mieux ne s'était pas soutenu. J'aimais beaucoup Mirval. Je m'y reposais du temps perdu à Paris. Je ne l'aimais plus lorsque je la vis envahie comme un petit Versailles, ouvert à la curiosité. Dans toute agglomération humaine, la médiocrité domine. Ces dîners journaliers de 50 couverts, ces réjouissances dans le parc, cet endimanchement perpétuel me furent odieux. Je ne pouvais refuser d'aider Mademoiselle Elmina dans ses fonctions de majordome. Son activité ne suffisait plus à tout. Le marquisat de sa nièce lui avait porté au cerveau. Elle ne trouvait plus rien d'assez magnifique ou d'assez ingénieux pour soutenir le lustre d'une position si haute. Je n'avais plus d'intimité avec Césarine. Depuis le mariage de Paul et le sien, ses lèvres étaient scellées, sa figure était devenue impénétrable. Elle ne se portait pas bien. C'était pour moi le seul indice d'une grande déception supportée avec courage. Je dois dire que durant cette période d'effort pour oublier sa blessure ou pour la cacher, elle fut vraiment la femme forte qu'elle se piquait d'être, et que, tout en l'admirant, je sentis se réveiller ma tendresse pour elle. La douleur que me causait sa souffrance, le dévouement qui me portait à l'alléger en lui sacrifiant mes goûts et ma liberté. J'avais à peine le temps d'écrire à Paul. Il m'écrivait peu lui-même. Il avait un surcroît de travail pour se mettre au courant de ses nouvelles attributions. Sa femme était heureuse, son enfant se portait bien. il n'avait, disait-il, rien de mieux à souhaiter. M. de Valbonne écrivait à M. Dietrich une fois par semaine pour le tenir au courant des alternances de mieux et de pire par lesquelles passait M. de Rivonnière. Il supportait mieux les déplacements que le repos. Il parcourait la Suisse à petites journées. Césarine paraissait prendre beaucoup d'intérêt à ses lettres, mais M. Dietrich seul y répondait. La marquise cachait avec peine l'insurmontable aversion que lui inspirait désormais M. de Valbonne. Au bout de 2 mois de lutte, Césarine l'emporta, et son père fut élu à une triomphante majorité. Elle avait déployé une activité dévorante et une habileté délicate dont on parlait avec admiration. On vécut encore quelques jours de ce triomphe, qui n'enivrait pas M. Dietrich et qui commençait à désillusionner la marquise, car beaucoup de ceux qu'elle avait conquis avec tant de peine montraient de reste qu'ils ne valaient pas cette peine-là et n'avaient guère plus de cœur que des chiffres. Elle se sentit alors très fatiguée et très souffrante. M. Dietrich, qui ne l'avait jamais vue malade depuis son enfance, s'effraya beaucoup et la reconduisit à Paris pour consulter. Nous nous retrouvâmes donc à l'hôtel Dietrich, tout à fait calme et à peu près seul. Tout le Paris élégant était à la campagne ou à la mer. Nous touchions à la mi-septembre et il faisait encore très chaud. Le marquis allait décidément mieux. Césarine voyait s'éloigner indéfiniment la recouvrance de sa liberté. Elle y était assez résignée, et son père espérait qu'elle aurait un jour quelque bonheur en ménage. L'engagement qu'avait pris son gendre de ne jamais la réclamer pour sa femme lui paraissait une délicatesse dont la marquise le tiendrait quitte en le revoyant guéri, soumis et toujours épris. La consultation des médecins dissipa nos craintes. Césarine n'avait que l'épuisement passager qui résulte d'une grande fatigue. On lui conseilla de passer le reste de la belle saison tantôt sur sa chaise longue, dans l'ombre fraîche de ses vastes appartements, tantôt en voiture, un peu avant le coucher du soleil, de prendre du fer, du quinquina, et de se coucher de bonne heure. Elle se soumit d'un air d'indifférence, se fit apporter beaucoup de livres et se plongea dans la lecture, comme une personne détachée de toutes les choses extérieures. Puis elle prit des notes, entassa de petits cahiers, et un beau matin, elle me dit. Durant ces jours de loisirs et de réflexion, tu ne sais pas ce que j'ai fait? J'ai fait un livre. Ce n'est pas un roman, ne te réjouis pas. C'est un résumé, lourd et ennuyeux, de quelques théories philosophiques à l'ordre du jour. Cela ne vaut rien, mais cela m'a occupé et intéressé. Lire beaucoup, écrire un peu, voilà un débouché pour mon activité d'esprit. Mais pour que cela me fasse vraiment du bien, il faut que je sache si cela vaut la peine d'être dit et celle d'être lu. J'ai écrit à ton neveu pour le prier de me donner son avis, et je lui ai envoyé mon manuscrit, puisque sa spécialité est de juger ces sortes de choses. Je ne tiens pas à être imprimé, je tiens seulement à savoir si je peux continuer sans perdre mon temps. » Et il t'a répondu ? Rien, sinon qu'il avait pris connaissance de mon travail et qu'il n'avait guère le temps de m'en faire la critique dans une lettre, mais qu'en un quart d'heure de conversation, il se résumerait beaucoup mieux et qu'il se tenait à mes ordres pour le jour et l'heure que je lui fixerais. Et tu as fixé... Aujourd'hui, tout à l'heure, je l'attends. Comme de coutume, Césarine m'avertissait à la dernière minute. Toute réflexion eût été superflue. 2 heures sonnaient, Paul était très exact, on l'annonça. J'observai en vain la marquise. Aucune émotion ne se trahit. Elle ne lui reprocha point de n'avoir pas tenu sa promesse de venir la voir. Elle ne s'excusa point de n'avoir pas tenu celle qu'elle avait faite de revoir Marguerite. Elle ne lui parla que littérature et philosophie. comme si elle reprenait un entretien interrompu par un voyage. Quant à lui, calme comme un juge qui ne permet pas à l'homme d'exister en dehors de sa fonction, il lui rendit ainsi compte de son livre. « Vous avez fait, sans paraître vous en douter, un ouvrage remarquable, mais non sans défauts. Au contraire, les défauts abondent. Cependant, comme il y a une qualité essentielle, l'indépendance du point de vue et une appréciation plus qu'ingénieuse, une appréciation très profonde de la question que vous traitez, je vous engage sérieusement à faire disparaître les détails un peu puérils et à mettre en lumière le fond de votre pensée. L'examen des effets est de la main d'un écolier et prend infiniment trop de place. Le jugement que vous portez sur les causes est d'un maître, et vous l'avez glissé là avec trop de modestie et de défiance de vous-même. Refaites votre ouvrage, sacrifiez-en les trois quarts, mais du dernier quart, composez un livre entier. Je vous réponds qu'il méritera d'être publié et qu'il ne sera pas inutile. Quant à la forme, elle est correcte et claire, pourtant un peu lâchée. J'y voudrais l'énergie froide, si vous voulez, mais puissante, d'une conviction qui vous est chère. Aucune conviction ne m'est chère, reprit Césarine, puisque j'ai fait ce travail avec indépendance. L'indépendance, reprit-il, est une passion qui mérite de prendre place parmi les passions les plus nobles. C'est même la passion dominante des esprits élevés de notre époque. C'est, sous une forme nouvelle, la passion de la liberté de conscience qui a soulevé les grandes luttes de vos pères protestants, madame la marquise. « Vous avez raison, dit-elle, vous m'ouvrez la fenêtre et le jour pénètre en moi. Je vous remercie, je suivrai votre conseil. Je referai mon livre. J'ai compris, vous verrez. » Il allait se retirer, elle le retint. « Vous avez peut-être à causer avec votre tante, lui dit-elle. Restez, j'ai affaire dans la maison. Si je ne vous retrouve pas ici, adieu et merci encore. » Elle lui tendit la main avec une grâce chaste et affectueuse en ajoutant « Je ne vous ai pas demandé des nouvelles de chez vous. J'en ai. Pauline vous dira que je lui en demande souvent. » Je trouvais inutile de dire à Paul qu'elle ne m'en demandait jamais. Mon rôle n'était plus de le prémunir contre les dangers que j'avais cru devoir lui signaler l'année précédente. Je devais au contraire lui laisser croire qu'ils étaient imaginaires et accepter pour moi le ridicule de cette méprise. Je pensais devoir seulement lui demander s'il ne craignait pas d'éveiller la jalousie du marquis en venant voir sa femme. « Je suis si éloigné de vouloir lui en inspirer, répondit-il, que je n'ai même pas songé à lui. Mais si vous craignez quelque chose, je puis fort bien ne pas revenir et vous prendre pour intermédiaire des communications qui s'établissent entre madame de Rivonnière et moi à propos de son livre. « Ton devoir serait peut-être d'en écrire à monsieur de Valbonne pour le consulter.
« Je trouverais cela bien puéril. Me poser en homme redoutable quand je suis mariée me semblerait fort ridicule, en même temps que fort injurieux pour cette pauvre marquise, que vous jugez un peu sévèrement. Supposez que vous ne vous soyez pas trompée, ma tante, et qu'elle eût réellement, dans un jour de rêverie extravagante, la pensée de s'appeler madame Gilbert. Elle est à coup sûr fort enchantée maintenant d'avoir une position plus conforme à ses goûts et à ses habitudes. Faudrait-il éterniser le souvenir d'une fantaisie d'enfant? Et si l'on fouillait dans le passé de toutes les femmes, n'y trouverait-on pas des milliers de peccadilles aussi déraisonnables qu'innocentes? De grâce, ma tante, laissez-moi oublier tout cela et rendre justice à la femme intelligente et bonne qui rachète, par le travail sérieux et la grâce sans apprêt, les légèretés ou les rêveries de la jeune fille. Devais-je insister? Devais-je avertir monsieur Dietrich, alors absent pour 6 semaines? Devais-je inquiéter Marguerite pour l'engager à se tenir sur ses gardes? Évidemment,
je ne pouvais et ne devais rien faire de tout cela. J'avais depuis longtemps perdu l'espérance de diriger Césarine. Je n'étais plus sa gouvernante. Elle s'appartenait, et je ne m'étais pas engagée avec son mari à veiller sur elle. Il n'y avait pas d'apparence qu'il fût jamais en état de tirer vengeance d'un rival. Et Paul avait désormais assez d'ascendant sur lui pour détruire ses soupçons. D'ailleurs, Paul voyait peut-être plus clair que moi. Césarine, éprise de graves recherches et peut-être ambitieuse de renommée, ne songeait peut-être plus à lui. Il la revit plusieurs fois, et peu à peu, ils se virent souvent. Monsieur Dietrich les retrouva sur un pied de relation courtoise et amicale, si discrète et si tranquille qu'il n'en conçut aucune inquiétude et ne jugea pas convenable d'en instruire monsieur de Valbonne dans ses lettres. L'automne arrivait, il se proposait de faire voyager un peu sa fille. Mais elle était parfaitement guérie et trouvait à Paris la solitude dont elle avait besoin pour travailler. Elle paraissait si calme et si heureuse qu'il consentit à attendre à Paris auprès d'elle l'ouverture de la session parlementaire. Césarine n'aimait plus le monde, et il était de bon goût qu'elle vécût dans la retraite. Son cortège de prétendants l'avait naturellement abandonnée. Elle rechercha parmi ses anciens amis les personnes graves occupées de science ou de politique. Aucun beau jeune homme, aucune femme à la mode ne reparut à l'hôtel Dietrich. Paul, avec sa mise modeste et son attitude sérieuse, ne déparait pas cet aréopage de gens mûrs convoqués autour des élucubrations littéraires et philosophiques de la belle marquise. Il prenait plaisir aux discussions intéressantes que Césarine avait l'art de soulever et d'entretenir. Il y faisait très bonne figure quand on le forçait à y prendre part. Il avait déjà dans ce monde-là des relations qui devinrent plus intimes. On y faisait grand cas de lui. On en fit davantage en le voyant plus souvent et moins contenu par sa discrétion naturelle. Césarine réussissait à le faire briller malgré lui et sans qu'il s'aperçût de l'aide qu'elle lui donnait. À la fin de l'hiver, leur amitié établie sans crise et sans émotion, elle l'engagea à lui amener Marguerite. Il refusa et lui dit pourquoi. Marguerite était trop impressionnable, trop peu défendue par l'expérience et le raisonnement pour sortir de la sphère où elle était heureuse et sage. Au printemps, Paul, dont la position s'améliorait chaque jour, avait pu louer à une demi-heure de Paris une petite maison de campagne où sa femme et son enfant vivaient avec Madame Ferron, sans qu'elles fussent forcées de beaucoup travailler. Il allait chaque soir les retrouver, et chaque matin, avant de partir, il arrosait lui-même un carré de plantes qu'il avait la jouissance de voir croître et fleurir. Il n'avait jamais eu d'autre ambition que de posséder 1 hectare de bonne terre, et il comptait acheter l'année suivante celle qui lui était louée. Il pouvait désormais quitter son bureau à 5 heures. Il dînait à Paris et venait souvent nous voir après. Dès que les pendules marquaient 9 heures, quelque intéressante que fût la conversation, il disparaissait pour aller prendre le dernier train et rejoindre sa famille. Quelquefois, il acceptait de dîner avec nous et quelques-unes des notabilités dont s'entourait la marquise. Un jour que nous l'attendions, je reçus un billet de lui. « Je suis effrayée, ma tante, » disait-il. « Marguerite me fait dire que Pierre est très malade. J'y cours. Excusez-moi auprès de Madame de Rivonnière. »« Prends ma voiture et cours chez mon médecin, » me dit Césarine. « Emmène-le chez ton neveu. Je t'accompagnerai si j'étais libre. Je te donne Bertrand, qui ira chez les pharmaciens et vous portera ce qu'il faut. » Je me hâtais. Je trouvais le pauvre enfant très mal. Paul au désespoir, Marguerite à peu près folle. Le médecin de l'endroit qu'on avait appelé s'entendit avec celui que j'amenais. L'enfant, mal vacciné, avait la petite vérole. ils prescrivirent les remèdes d'usage et se retirèrent sans donner grand espoir. La maladie avait une intensité effrayante. Nous restions consternés autour du lit du pauvre petit, quand Césarine entra vers 10 heures du soir, encore vêtue comme elle l'était dans son salon, belle et apportant l'espoir dans son sourire. Elle s'installa près de nous, puis elle exigea que Marguerite et Paul nous laissassent toutes deux veiller le malade. La chambre était trop petite pour qu'il fût prudent d'encombrer l'atmosphère. Elle se déshabilla, passa une robe de chambre qu'elle avait apportée dans un foulard, s'établit auprès du lit et resta là toute la nuit, tout le lendemain, toutes les nuits et les jours qui suivirent, jusqu'à ce que l'enfant fût hors de danger. Elle fut vraiment admirable, et Paul dut, comme les autres, accepter aveuglément son autorité. Elle avait coutume de soigner les malades à Mirval, et elle y portait un rare courage moral et physique. Les paysans la croyaient magicienne, car elle opérait le miracle de ranimer la volonté et de rendre l'espérance. Ce miracle, elle le fit sur nous tous autour du pauvre enfant. Elle était entrée dans cette petite maison abîmée de douleur et d'effroi, comme un rayon de soleil au milieu de la nuit. Elle nous avait rendu la présence d'esprit, le sens de la propos, la confiance de conjurer le mal. Toutes conditions essentielles pour le succès des meilleures médications. Elle nous quitta, nous laissant dans la joie et bénissant son intervention providentielle. Je dus rester quelques jours encore pour soigner Marguerite, que le chagrin et l'inquiétude avaient rendu malade aussi. Césarine revint pour elle, ranima son esprit troublé, lui témoigna un intérêt dont elle fut très fière, rassura et égaya Paul, qui, à peine remis d'une terreur, retombait dans une autre. Se fit aimer de Madame Ferron, avec qui elle causait des choses les plus vulgaires, dans un langage si simple que la femme supérieure s'effarait absolument pour se mettre au niveau des plus humbles. Cette séduction charmante me prit moi-même, car dans nos entretiens, elle ne donnait plus de démenti confidentiel à sa conduite extérieure. Je me persuadais qu'elle était absolument guérie de son orgueil et de sa passion. Je ne craignis plus d'enflammer Paul en partageant l'admiration qu'il avait pour elle. Sa reconnaissance et son affection devenaient choses sacrées. Une prévision du danger m'eût semblé une injure pour tous deux. Et pourtant, la marquise avait réussi là où avait échoué Césarine. Elle avait amélioré le sort de Paul, car, sans qu'il pût s'en douter, elle avait pesé, par l'intermédiaire de son père, sur les résolutions de M. Latour. Celui-ci, ayant éprouvé quelques pertes, voulait restreindre ses opérations. En lui prêtant une somme importante, M. Dietrich l'avait amené à faire tout le contraire et à charger Paul d'une affaire assez considérable. Elle avait ainsi donné du pain à l'enfant et du repos à la mère. Elle avait été le médecin de l'une et de l'autre. Elle s'était emparée de la confiance, de l'affection, voire des secrets de la famille. Tout ce que Paul avait juré de soustraire à sa sollicitude, elle le tenait. Et loin de s'en plaindre, il était heureux qu'elle l'eût conquis. Une seule personne, celle qui jusque-là avait été la plus confiante, Marguerite, sans autre lumière que son instinct, devina, ou plutôt sentit la fatalité qui l'enveloppait. Elle le sentit d'autant plus douloureusement qu'elle adorait la belle marquise et ne l'accusait de rien. Sa jalousie éclatait d'une manière tout opposée à celle que nous avions redoutée. Un jour, je la trouvai en larmes, et bien que j'eusse quelque ennui à écouter ses plaintes, je fus forcée de les entendre. « Voyez-vous, me dit-elle, vous me croyez heureuse. Eh bien, je le suis moins qu'avant ce mariage tant désiré. Je m'instruis un peu, Paul a un peu plus de temps pour s'occuper de moi, et il croit me faire grand bien en m'apprenant à raisonner. Cela me tue, au contraire.
car voilà que je comprends un tas de choses dont je ne me doutais pas. Et toutes ces choses sont tristes, toutes me blessent ou me condamnent. Il ne peut pas me parler de ce qui est bien ou mal sans que je me rappelle le mal que j'ai fait et la répugnance qu'il doit avoir pour mon passé. Il me dit bien que je dois l'oublier puisque tout est réparé. Mais qu'est-ce qui a réparé? C'est lui, au risque de sa vie, en prenant la vie d'un autre et en me refaisant un honneur avec du sang. Il est bon. Il s'est mis à plaindre celui qu'il détestait, et la pitié qu'il a pour son ennemi le rend triste quand il entend dire qu'il mourra. S'il m'aimait assez pour s'en consoler. Mais voilà ce qui ne se peut pas. Ce n'est pas le tout d'être jolie femme et d'aimer à la folie. Il faut encore avoir de l'esprit et de l'instruction pour ne pas ennuyer un homme qui en a tant. Moi, quand je demandais le mariage, je ne savais pas ça. Je croyais qu'il devait se plaire avec moi et son enfant. Et je lui disais toujours « Où seras-tu plus aimé et plus content qu'avec nous ?» Il n'a jamais été contre, car il me répondait « Tu vois bien que je ne me trouve pas mieux ailleurs, puisque je ne vous quitte jamais que je n'y sois forcé. » Aujourd'hui pourtant, il pourrait dîner avec nous tous les jours, et c'est bien rare qu'il revienne ici avant 9h30 du soir. Il ne voit plus Pierre s'endormir. Il le regarde bien dans son petit lit, et le matin, il le porte dans le jardin et le dévore de caresses. Mais je le regarde à travers le rideau de ma fenêtre, et je lui vois des airs tristes, tout d'un coup. Je me figure même qu'il a des larmes dans les yeux. Si j'essaie de le questionner, il me répond toujours avec sa même douceur et me gronde avec sa même bonté. Cependant, il a l'air sévère malgré lui, et je vois qu'il a de la peine à se retenir de me dire que je suis une ingrate. Alors je lui demande pardon et ne lui dis plus rien. J'ai trop peur de le tourmenter, mais il me reste un pavé sur le cœur. Je chante, je ris, je travaille, je remue pour me distraire. Ça va bien tant que l'enfant est éveillé et que je m'occupe de lui. Quand il ferme ses yeux bleus, le ciel se cache. Madame Ferron s'en va dormir, aussi, tout de suite. Paul m'a défendu de lui faire des confidences. Elle aime à causer, et mon silence l'ennuie. Je reste seule, j'attends que mon mari soit rentré. Je prends mon ouvrage et je me dis « 2 heures, ça n'est pas bien long. » Cela me paraît 2 ans. Je ne sais pas pourquoi ces 2 heures-là, qu'il pourrait nous donner et qu'il ne nous donne presque plus, me rendent folle, injuste, méchante. Je rêve des malheurs, des désespoirs. Si je ne craignais pas d'éveiller mon petit, je crierais tant je souffre. Je regarde à la fenêtre comme si je pouvais voir par-dessus la campagne ce que Paul fait à Paris. Et pourtant, je le sais, il ne fait pas de mal. Il ne peut faire que du bien, lui. Je sais qu'il va souvent chez vous. C'est bien naturel. Vous êtes pour lui comme sa mère. Quand il rentre, je lui demande toujours s'il vous a vu. Il répond oui. Il ne ment jamais. S'il a vu la belle marquise, s'il y avait du grand monde chez elle, s'il est content d'être revenu auprès de moi, il sourit en disant toujours oui. Il me fait raconter tout ce que le chéri a fait et dit dans la journée, à quel jeu il s'est amusé, ce qu'il a bu et mangé. Enfin, il paraît heureux de parler de lui, et je n'ose pas parler de moi. Je me cache d'avoir souffert. Quelquefois, je suis bien pâle et bien défaite. Il ne s'en aperçoit pas. Ou s'il y prend garde, il ne devine pas pourquoi. Je voudrais lui tout dire pourtant, lui confesser que je m'ennuie de vivre, que par moments je regrette qu'il m'ait empêché de mourir. J'ai peur de lui faire de la peine, d'augmenter celle qu'il a, car il en a beaucoup, je le vois bien, et peut-être est-il plus à plaindre que moi. Ce jour-là, Marguerite ne me laissa entrevoir aucune jalousie contre la marquise. Mais une autre fois, ce fut à Césarine elle-même qu'elle se révéla.